Peut-être que comme vous êtes très nombreux ce soir dans la salle, je vais vous proposer de prendre la parole si vous avez une question à poser.
Moi, je voudrais vous poser... Ça marche, ce truc ? Oui. Je voudrais vous poser deux questions. Avant, je voudrais faire une petite remarque. Je voudrais finalement dire du bien d'une profession qui est assez décriée, et parfois justement décriée, qui est la mienne, celle de journaliste littéraire. Parce que je trouve que pour lire Les Voyageurs du Temps et pour faire une critique intelligente des Voyageurs du Temps, il faut aimer la littérature et avoir le sens de la musique, avoir l'oreille musicale. Et il se trouve que le jour de la sortie de votre livre, les critiques importants, dont Nathalie Crum qui est ici, dont Michel Crépu qui est ici, dont Philippe Lançon qui n'est pas ici, Marc Lambron, des gens qui savent lire, ont fait des critiques extrêmement positives des Voyageurs du Temps. Il y a eu cette espèce de rassemblement qu'il n'y a pas toujours. Je veux dire, Philippe Lançon est bien entré en dialogue avec vous, et de temps en temps dans Libération il fait un peu la fine bouche. Donc là c'était Solaire, ce grand cru 2009, c'était vraiment bon. Évidemment il y a eu ensuite quelques papiers imbéciles, mais ça c'est pas tellement important. Au fond c'était des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent, il y en a toujours. Et ce que je voulais vous demander, c'est que moi, dans Livre Hebdo par exemple, on a dit que c'était un livre où vous étiez dans une sorte de resserrement sur vos fondamentaux, etc. Ce qui ne me paraît pas tout à fait faux, ce qui me paraît même assez juste. Et moi, j'ai vu aussi ce livre un peu comme une sorte de temps retrouvé, non pas en faisant une allusion à Proust, mais comme une manière pour vous de faire un rassemblement, de faire le lien entre tout ce que vous avez fait dans votre œuvre, que ce soit de Paradis ou des textes qu'on a considérés comme plus d'avant-garde, et ensuite, par exemple, en studio, où vous rendez particulièrement hommage à Hölderlin et à Rimbaud. Et donc, une espèce de volonté un peu totalisante. Donc, je voudrais savoir si vous voyez un peu les choses comme ça. Et puis, la deuxième chose dont Nathalie Crum n'a pas beaucoup parlé, et dont finalement certains critiques ont très bien parlé, notamment Jean-Claude Urbain dans L'Humanité, c'est peut-être pas pour rien, mais aussi une très jeune femme dans Métro, et qui est aussi une manière de continuer quelque chose qui est toujours présent dans votre œuvre, c'est la critique sociale.
Ah oui. Oui, merci. Pour la première question, je pense que. Enfin, je ne peux pas faire autrement. Je fore, c'est du forage, sur les mêmes. Je fore sur les mêmes gisements. Et ce qu'il y a d'étonnant, c'est que je crois connaître par cœur, géologiquement, historiquement, littérairement, philosophiquement. Je crois connaître, et franchement, je relève le défi de lecture de n'importe qui. On peut jouer aux échecs. Je fore et je trouve toujours quelque chose de nouveau. C'est cette question qui m'importe. Pourquoi un certain nombre de textes, pas forcément religieux, la Bible, vous savez, on peut y rester longtemps, le Talmud est fait pour ça. Mais pourquoi pour des textes aussi importants que Dante ou d'autres, ou Hölderlin, pourquoi on peut toujours trouver encore autre chose. J'ai raconté que j'ai acheté 10 éditions des Illuminations et en plusieurs caractères, c'est-à-dire bon, j'essaye de grossir les caractères et bon. Je pense que je peux arriver là presque à l'essentiel. D'ailleurs, c'est un magazine qui m'éreinte d'habitude, sans savoir pourquoi eux-mêmes, d'ailleurs, au fond. L'ostracisme ne donne jamais ses raisons véritables. Donc, c'est l'Express. Il y a une pigiste qui a dit, il y a un des points forts, c'est sur Rimbaud, on peut se passer de relire, comme si elle avait lu, Une saison en enfer ou Les Illuminations. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que l'Express avait fait une grande publicité au livre de Jean-Jacques Lefrère, qui m'a envoyé une lettre de félicitations pour ce qui concernait Lautréamont et Rimbaud. Au moins, c'est un spécialiste, je ne vais pas lui demander. Mais comme il l'avait dit à l'Express, alors il fallait pas exagérer, parce qu'il aurait pu écrire une lettre de rectification, vous voyez le genre. Voilà. Bon, c'est les prudences misérables. Bon, ça c'est la première question. La deuxième, c'est sur la critique sociale. Écoutez, alors là, vraiment, j'arrête pas. Et je considère qu'il y a maintenant deux sortes de personnes en cours, vraiment. Ceux qui trouvent que finalement, la société s'impose. elle est pas bonne, mais on pourrait, d'abord on pourrait la réformer, ou alors on pourrait même la révolutionner, ou, mais en tout cas, c'est la société. C'est la société d'abord, c'est comme j'ai dit, c'est Dieu. C'est Dieu. Et donc, vous avez raison, parce que cette critique de métro, c'est une critique qui a souligné le fait que, en effet, tout était... L'individu, désormais, était entièrement déterminé par... voilà. Il naît social, il vit social, il travaille social, et il meurt social. Voilà. Alors, là, cette absence, c'est comme si on voulait faire de la planète, en effet, un camp de surveillance et concentration, ce qui est en cours. Tout est social. Donc, Orwell, vous savez... a vu ça venir, mais il faut raffiner, il faut aller plus loin, il faut d'autres analyses. Le biopouvoir, par exemple, la reproduction de l'espèce, tout ça, la technique, etc. Tout ça est en plein boom. Et qu'est-ce que la liberté par rapport à cette fermeture? C'est la petite question que je pose, et je la pose sur la capacité de lecture. Parce que c'est ça qu'une tyrannie en cours suspecte a priori. Ça s'est vu sous des formes grotesques, Rushdie, par exemple. Bon. Mais c'est pas la censure dure qui est importante. C'est la censure insidieuse, douce, ce que j'appelle noyer le poisson. C'est-à-dire, comment voulez-vous quand il y a 600 livres et une propagande effrénée pour des auteurs qui vont disparaître très bientôt, ou bien des auteurs anglo-saxons qui n'auront pas le moindre intérêt dans 2 ans, comment voulez-vous qu'on s'intéresse encore aux fondamentaux? Alors la crise pourrait avoir un mérite, on ne sait pas. Une grosse crise énorme, tempête, mévente des livres, abrutissement général. C'était comme ça en 1870. D'où Lautréamont et Rimbaud. En tout cas, mon livre a été publié en janvier, et heureusement pour moi, parce que je passe entre les gouttes, mais bientôt ça va être pire.
D'autres questions?
Et l'effet probablement symbolique à long terme, voilà.
Oui, vous avez...
Je l'interromps parce que je voudrais dire qui parle. Il s'appelle Thierry Sudour et il vient de soutenir une thèse absolument extraordinaire sur Paradis. Et je crois qu'il faudrait...
Avec félicitations du jury.
Avec les félicitations du jury. Et je voudrais qu'un jour cette thèse soit publiée parce que je pense que même les gens qui ont lu Paradis, sauf lui, se sont laissés porter par la musique, par les sonorités, par certaines choses qu'ils ont comprises, mais n'ont sûrement pas comprises toutes les allusions que Thierry Sudour a réussi à décrypter. 2516 notes.
2516 notes. Mais ça, c'est quelque chose.
Merci. Bon, je vais essayer de ne pas rougir. Moi, j'avais une question. Je voulais rapprocher... Jacques Henrich parlait d'une odyssée. Donc, je pensais à Ulysse, effectivement, qui, de temps en temps, va voir les morts. Enfin, va voir les morts une fois et va voir notamment son père Laërte. Et puis, vous avez parlé d'Hamlet, qui, lui, ne va pas chercher les morts, mais est cherché par les morts. Et alors, je me demandais, dans la lecture, si c'était vous qui alliez chercher les auteurs, ou si il arrivait que ce soit eux qui viennent vers vous. Autrement dit, est-ce qu'il y a des livres qui vous ont été livrés par le hasard, ou bien... est-ce que vous avez lu de manière presque encyclopédique, d'une certaine manière, et qu'ensuite vous n'aviez plus qu'à aller les chercher, d'une certaine manière, ces voyageurs du temps? En gros, je voulais savoir un petit peu si c'était eux qui étaient venus à vous, ou vous qui étiez venus à eux. Ça va peut-être dans les deux sens, d'ailleurs.
C'est les deux. Il est vrai que je cherche tout le temps la note, ou j'essaye, la note fondamentale qui s'est dite ici ou là. Bon. Chez Kafka, par exemple, je la trouve, parce qu'elle est rare. Elle est extrêmement en contradiction avec toutes les images qu'on sait. Comme j'essaye de détartrer, c'est un terme employé par Dante, d'ailleurs, il y a le tartre dans les ordres religieux. Le tartre est là. Alors, on essaye de détartre. Donc ça suppose évidemment une patience assez grande, mais faut pas que le travail se voit, quoi. Donc je vais vers eux parce que je peux pas faire autrement, c'est cela et pas d'autre. Sinon je perds mon temps. Je vous dis, il est étonnant qu'on relise pour la 50e mille fois la même chose et qu'on la trouve neuve. C'est ça qui me fait signe. Donc, on pourrait dire aussi bien que la chose neuve, incarnée ici ou là par un voyageur X, vient vers moi. Donc, au fur et à mesure que je fais des progrès personnels, enfin, progrès n'est pas le mot, je suis de plus en plus près de ce qu'on appelle musique, je suis de plus en plus près de la note fondamentale. En effet, j'ai des interlocuteurs. Il y a une lettre sublime de Machiavel que vous connaissez, bien sûr. Il est en exil à Florence, tout va mal. Il n'est pas comme Dante condamné à mort, c'est déjà aussi une aventure. Qu'est-ce qu'il y a de plus romanesque que Dante condamné à mort écrivant la Divine Comédie? Vous connaissez quelque chose de plus romanesque? Machiavel, il lui rentre c'est une lettre fameuse. Le soir, alors qu'il a passé sa journée dans les bois, faire des histoires d'agriculture, il rentre, il s'habille soigneusement, princièrement, et il rentre en dialogue avec Aristote. Merci. Ça me plaît assez. Donc il y a eu des gens comme ça pendant des millénaires, on peut dire, ouais, comme les Juifs qui lisaient la Bible. Ils avaient bien raison, ça tient le coup.
Devant Nathalie Crom, il y a un autre livre. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Qui s'appelle Grand Beau Temps.
Oui.
Qui est là.
Pardon, Grand Beau Temps, il faut le montrer, oui. Mais ça, c'est pas moi, c'est un jeune homme qui s'appelle Guillaume Petit et qui, brusquement, alors que personne ne lui avait rien demandé, a commencé à fouiller dans mes textes et à faire ce recueil. Et il a 28 ans, 30 ans, pas je crois. Il est à Rouen, il est chômeur, il n'a aucune espérance de vie sociale, il n'est pas du tout social, il n'a pas voulu faire quelque chose de social, il a fait exactement tout le contraire, il se trouve que ça a pu être édité, il est remercié au début. C'est donc ce que Stendhal a appelé le lecteur bénévole auquel il appelle, vous savez, très souvent. Oh, lecteur bénévole, c'est les préfaces à Lucien Neuwen, vous savez. Alors qu'il termine presque tous ses livres à une certaine époque, To the Happy Few. Oh, Stendhal, Happy Few. Les heureux très peu nombreux. Voilà, la Chartreuse de Parme, c'est To the Happy Few. On en parle encore.
D'autres questions?
C'est bien.
C'est bien?
Merci.
Vous êtes sûr?
Si quelqu'un, comme disait Karl Kraus, a quelque chose à dire, qu'il se lève et qu'il se taise.
Alors, je vous remercie, Philippe Solers. Merci beaucoup.